Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Comme tu le disais, Mathieu, on va avoir un sujet vraiment très intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette chronique intelligence artificielle, nous n'allons pas vous parler d'un énième nouveau modèle qui fait des trucs chouettes, d'une énième nouvelle application révolutionnaire ou de fine-tuning. Non, on va vous parler d'une puce. Une simple puce, une simple qui ressemble à une carte graphique finalement, qui pourrait bien changer énormément de choses, qui pourrait complètement en fait révolutionner la manière dont vous voyez actuellement les chatbots et toutes les applications basées sur l'intelligence artificielle. Comment t'as découvert ça déjà, Mathieu ?
Eh bien, honnêtement, je vais vous refaire l'origin story, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Parfois, je tombe sur des nouveaux outils, on m'envoie des nouveaux outils à tester. Et donc, je fais une veille et parfois, je les teste, je les mets dans un coin, je les mets dans un bout de Notion. Et là, justement, je l'avais mis dans un bout de Notion sans le tester. Et je me dis, OK, on m'a parlé de Grok. G-R-O-Q. Je vais tester, c'est en gros un chatbot en ligne où tu peux utiliser tes modèles genre Mixtral, Llama, les modèles ouverts, comme il en existe plein d'autres, mais je vais le tester. Et donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire en direct, si ça fonctionne avec Thiel. J'ai testé et je lui ai demandé. Donc là, on va lui demander.
Là, jusque-là, c'est...
C'est vraiment comme ChatGPT, mais c'est une autre interface qui n'utilise pas ChatGPT. On peut choisir son modèle en haut, il y a marqué Mixtral.
Ça paraît parfaitement normal et on va lui envoyer un petit message.
Même que l'interface est pas dingue. Honnêtement, ça pourrait être mieux. Et voilà, raconte-moi l'histoire des lois d'Asimov. Et donc, j'ai lancé cette requête.
T'es prête ? Attention, t'es prête ?
Ouais.
Voilà. Alors, bon, on dit que c'est un chatbot.
Un chatbot, on dirait que ça va bien.
Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on pourra le remettre plusieurs fois. C'est allé vraiment super vite. Mais genre, il y a eu, je pense, moins de une seconde et demie. C'est pas marqué quelque part ?
C'est au-dessus, là.
Si, si, le nombre de tokens par seconde. Vas-y, refais-le encore.
Donc, 127 tokens par seconde. Sinon, tu peux lui demander... Donc ça va quand même super vite.
Je sais pas si mais on s'en rend pas forcément compte parce que c'est en plus c'est écrit en
petit. Peut-être faire une comparaison avec ChatGPT. Moi je pense que ça serait une bonne solution. Waouh, il est si rapide, il l'avait pré-shot. Donc ça va vite, mais c'est parce qu'il écrit au fur et à mesure.
Exactement, ça n'est pas lent.
Ça n'est pas lent.
Mais là il y a bien 4 secondes à mon avis.
Ouais, et je pense que il utilise
GPT. 3.5.
Ah non, 3.5, ok, très bien.
Donc c'est censé être le truc le plus
rapide. Mais quand même.
En vrai, c'est plus rapide que... C'est rapide chez vous, là, non ?
c'est parce qu'on paye des gens, t'inquiète.
Mais c'est aussi qu'on utilise ChatGPT 3.5, c'est pour que la comparaison soit faire. C'est-à-dire que c'est des modèles qui sont, théoriquement, en termes de performance et de benchmark, qui sont similaires. Et pourtant, là, d'un côté, t'as 4 secondes de génération, et de l'autre... Une demi ou...
Et ça va vraiment... Enfin, je l'ai fait sur plusieurs trucs où j'ai demandé vraiment des choses utiles à ce moment-là. Donc là, c'est une petite histoire et tout. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Si, je pense que si t'as une connexion lente, tu le vois encore plus. bref, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et je me suis dit, tiens, pourquoi un simple front, un simple site web est capable d'aller plus vite que tous les autres outils que j'ai utilisés à côté? C'est le même modèle, j'utilisais Mixtral à chaque fois. ChatGPT, bah, c'est le modèle le plus rapide et le meilleur. Comment ils font pour aller plus vite? C'est quoi leur secret sauce? Et donc du coup, je me suis dit, je vais diguer, je vais creuser pour savoir qu'est-ce qu'ils font qu'en fait ça va plus vite leur site web et pas un autre. Alors, on peut se poser juste la question, un petit aparté, pourquoi aller plus vite? En vrai, là, on l'a bien vu, pour un humain, ChatGPT fait carrément le taf.
Oui, ça va plus vite que ce qu'on peut lire.
Voilà, ça va plus vite que ce qu'on peut lire, donc on s'en fout. Pour un humain, c'est pas forcément nécessaire. Sauf que, pour une machine, là, ça change tout. Parce que si on commence à utiliser cette IA avec un autre algorithme, un autre programme, un autre logiciel, tous ces temps vont pouvoir être raccourcis et donner des applications incroyables. On reviendra sur les potentielles applications. Et il y en a qui ont déjà eu des modèles... des applications qui ont déjà essayé des cas d'usage, comme on dit, qui sont très intéressants. On y reviendra à la fin.
Juste pour donner un exemple pour les, ouais. pour les gens, quand vous utilisez ChatGPT avec des plugins, par exemple, qui va faire des recherches sur Internet en arrière-plan ou qui va exécuter du code Python pour vous afficher des jolis graphes ou vous générer des images à la volée. À chaque fois, en réalité, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que vous avez des chaînes de pensée, comme on dit, des exécutions cachées de discussions entre différents agents, différents programmes. Qui sont une sorte de discussion cachée et qui pourtant nous impactent en tant qu'utilisateurs parce que c'est ça qui fait qu'on attend que ça charge, Donc c'est ça dont tu parles, hein.
Et par exemple, toutes les applications que tu as nous a parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne Underscore où tu nous présentes les 4, 5, 6 nouvelles applications dédiées à l'IA font tout ça, font des appels à l'IA en background qu'on ne voit pas en arrière-plan et sauf que tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça que, pour l'instant, on est patient parce que c'est l'IA, on trouve que ça va vite, mais on va pas être si patient si longtemps que ça. Tu voulais ajouter quelque chose ?
C'est ça, c'est qu'en fait, on peut se dire, ok, mais est-ce qu'on est vraiment à 10 secondes près ? En fait, c'est se tromper de ce qui est important. Il y a plein de papiers qui sortent qui t'expliquent en termes de performance, si tu peux avoir 4 interactions, 8 interactions, 32 interactions, et ben, c'est-à-dire des chaînes de pensée, des discussions simulées, et tu vas vraiment obtenir des résultats qui étaient complètement impossibles avant. On a montré un exemple de d'IA qui arrivait à générer des TikTok à partir de rien.
J'y pense à celle-là.
Et typiquement, ça, actuellement, c'est 5 minutes de génération.
On a dû passer à un autre outil et revenir après.
En fait, c'est quand même un champ des possibles qui s'ouvre. Et effectivement, il y a des cas d'usage super, super précis dont on va vous parler, où vraiment avoir ce type de vitesse mystérieuse et anormale serait vraiment très cool.
Et là, vous avez vu une démo pendant que tu parlais, où ça a pris 25-30 secondes, je dirais, j'ai pas exactement calculé. On a demandé de générer dans ChatGPT une image, raconte-moi les lois d'Asimov en image. Et il y a un système de, il faut d'abord qu'il comprenne, après qu'il interprète, qu'il propose plusieurs légendes d'images et qu'il génère l'image. Ça a pris environ 30 secondes, je dirais. Donc, franchement, il y a vraiment des choses à faire. Pas forcément pour l'humain, encore une fois, mais pour ce qu'il y a derrière, pour les machines, les programmes. J'ai donc voulu savoir ce qu'il y avait derrière ce simple site web pour qu'il puisse optimiser à ce point-là la génération par chatbot. Alors, première chose, s'il y en a qui confondent avec Grok de Twitter avec un K, ça n'a rien à voir. Il y a Grok, G-R-O-K, c'est Twitter. Enfin, c'est une intelligence artificielle de Twitter. Là, c'est G-R-O-Q. Et qu'est-ce qu'ils utilisent ? Quelle est leur secret sauce ? C'est pas des optimisations logicielles de fou derrière un site web super bien optimisé, mis sur un cloud,
des GPU,
des GPU en partenariat avec Nvidia. Non, rien du tout. En fait, ils utilisent une nouvelle puce hardware. Donc, si vous voulez, vous, reprendre leur idée, vous ne pouvez pas parce que c'est de l'hardware. Ou, sauf si vous connaissez beaucoup en architecture de puces graphiques. Et donc, c'est une nouvelle puce. Ils ont appelé ça des LPU, pour Language Processing Unit. Donc, c'est des puces qui, en fait, sont expressément faites pour générer du langage et le comprendre. Par chatbot.
C'est même pas un GPU, moi. Quand j'ai vu l'image.
Ça n'est pas un GPU.
J'ai cru que c'était un GPU au début.
Ça n'est pas un GPU. Pourquoi ça n'est pas un GPU ? C'est des puces qui sont utiles que pour l'inférence. Alors, l'inférence, c'est quand nous, on fait une requête dans un chatbot et l'IA nous répond. Et en fait, il y a deux choses à différencier dans l'IA, ou là où il faut de la puissance de calcul. Il y en a une où il faut énormément de puissance de calcul. C'est l'apprentissage, c'est pour entraîner les modèles. Et ça, c'est fait par les Google, les Mistral, les Facebook, les Meta, etc. Et il y a, quand on utilise ChatGPT, ça utilise beaucoup moins de ressources, mais quand même, ça utilise des petites ressources. C'est là que quand on l'héberge en local sur notre marque, on utilise notre GPU. Mais après, quand c'est dans des serveurs, on utilise par exemple les gros serveurs de Nvidia, les grosses cartes graphiques H100, qui sont là, en fait, soit pour entraîner un modèle, soit pour répondre. L'inférence, c'est vraiment l'équivalent d'une requête web quand on est sur Internet.
Alors que là, ça peut pas générer d'image, par exemple, ce truc ?
Non. Et c'est pour ça que ça s'appelle Language Process Unit, c'est que vraiment ils se sont dit on va faire quelque chose de vachement spécialisé sur le langage. J'ai compris ça, je me suis dit ok, je vais regarder ces specs. Regardons les specs de ce LPU. Je vois la quantité de mémoire. Alors c'est pas ce qu'il y a en rouge, c'est ce qu'il y a au-dessus.
230
mégaoctets de RAM, enfin de mémoire de la puce.
C'est peanuts.
C'est rien du tout.
C'est nul, ouais.
Et ça n'a aucun sens. Pour comparatif, la puce qui fait foi dans l'IA, c'est donc, j'en parlais, la puce de NVIDIA H100. C'est de la référence pour les Google, les Microsoft, les OpenAI. Elle a, dans certaines versions, jusqu'à 80 gigas de mémoire pour une puce. Là, par puce, il y a 230 mégaoctets. Alors que ça va plus vite.
Et alors, pour ceux qui ne mangent pas des cartes graphiques au petit déjeuner, en gros, les ordres de grandeur pour des cartes normales, c'est dans les 8, 10, ouais. 12, 16 gigas.
C'est des bonnes cartes graphiques déjà.
Voilà, ça c'est les meilleures que tu peux obtenir. Et 24 gigas, c'est si tu prends actuellement une 4090.
Et que t'es monteur vidéo à temps plein pour le cinéma.
Ouais, et que tu fais du Blender ou de vraiment
voilà. des ou des animations, du motion, etc.
Et vraiment, quasiment personne n'a besoin de ça, mais actuellement, voilà, ça va te coûter dans les 2000 euros à peu près. C'est le mieux que tu peux avoir en tant que personne normale pour un GPU, c'est une 4090. Et là, tu peux espérer avoir 24 gigas de RAM. Et pour vous donner alors, on parle bien de VRAM, donc c'est de la RAM de GPU. Hein. C'est pas les petites barrettes que vous mettez dans votre machine. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, là-dessus, vous pouvez faire tourner des modèles type Mixtral qui vont faire 30 milliards de paramètres à peu près. Assez bien, vous pouvez commencer tout doucement à faire tourner des modèles un peu plus gros, type des 70 milliards de Llama ou des choses comme ça, s'ils sont vraiment, si vous les réduisez beaucoup, enfin bref, c'est pas terrible. Donc, en gros, c'est rien que ça, la meilleure carte graphique que nous autres on peut acheter, c'était très vite limité en termes
par la mémoire.
Exactement, par la mémoire. Donc 24 gigas, dans ma tête, c'est peu en fait, c'est vraiment très peu. La 230
mégaoctets,
c'est ridicule.
C'est comme s'il n'y en avait pas. Ouais. Je regarde une ligne après et je m'intéresse au nombre d'instructions qu'on peut faire par seconde. C'est une stat qui est beaucoup utilisée dans les CPU, les GPU, tout ce qui est processeur. Pour un, on va revenir à notre H100 de NVIDIA, on peut faire 1000 teraflops par seconde. Donc 1000 opérations, 1000 instructions. Le GROG, là, le LPU de GROG Chip, il est à 188 teraflops. Ok, donc c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant...
C'est quoi la différence? C'est divisé par...
1188, donc c'est divisé par 5.
Ok.
C'est divisé par 5. Alors après... forcément les LPU, il y en a plusieurs, donc les comparaisons sont on peut pas exactement les faire comme ça, et pourtant les résultats sont là. Je vous ai dit, en inférence on peut le LPU peut générer 400 tokens par seconde, pour simplifier, 400 mots par seconde. Vous lui donnez une instruction, il va pouvoir écrire 400 mots par seconde, alors que pour des GPU classiques mais quand même un peu puissants, on est à 100 tokens par seconde. Mais c'est un peu la limite qu'on avait. Ok, on est à 100 tokens par seconde, ça nous va très bien, donc
on va jamais faire
100
mieux,
mots par seconde. Eux, ils sont arrivés, tout à l'heure on a même vu du 525 tokens par seconde, ce qui est vraiment invraisemblable. En haut, voilà, 520 tokens par seconde. Résultat, et j'ai oublié quelque chose, donc c'est bien plus rapide en inférence. Et en plus, c'est beaucoup moins cher pour les chatbots qui hébergent ce genre de plateforme. Parce que forcément, quand tu es un chatbot, tu as des coûts en inférence. Ça te paye ça te coûte de l'argent. Et c'est beaucoup moins cher. On est environ à...
Souvent, c'est l'amortissement et l'électricité, quoi.
Exactement. En termes de perf, si je dois résumer, on est à 10 fois la vitesse qu'on aurait avec un système classique jusqu'ici, et 100 fois le prix par performance. Donc le prix pour une performance à égalité avec un système classique. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Y a plein de plateformes qui se sont mis à intégrer l'API de GROG Chip pour utiliser les LPU de GROG Chip. Il y a eu Vercel. Vercel. Alors, ils font pas... Tout sur GROG. Ouais. mais ils ont implémenté ça à Vercel, et on a eu POE aussi, je ne sais pas si ça vous parle.
C'est quoi, les outils de développeurs?
Des chatbots. Voilà. Non, c'est des chatbots aussi que vous pouvez avoir en front-end. Donc POE, c'est un assistant, vous pouvez lui demander des recettes de cuisine, etc. Je dis, c'est incroyable, c'est pas cher, c'est performant. C'est quoi leur secret? On l'a dit, c'est une puce dédiée. Et en fait, ils sont partis du postulat que, à la naissance de l'IA, si on a commencé à la naissance de l'IA, ouais, ça fait très bizarre, mais quand l'IA a commencé à s'émanciper, à devenir vraiment efficace, et qu'on a commencé à utiliser l'IA de façon quotidienne, en fait, on a utilisé les GPU parce que ça fonctionnait et qu'ils étaient présents sous la main. Et que c'était très bien, ça allait très vite, ça marchait avec nos GPU, on l'a fait. Sauf que, en fait, de base, un GPU, c'est fait pour processer des images graphiques. C'est pas fait pour de l'intelligence artificielle. Alors, ça marche très bien, Sauf que Grog, là, ils se sont dit, ça marche très bien, on peut faire carrément mieux. Et en fait, faire mieux, dans le monde de l'IA, c'est faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Ce qui est fou, c'est que ça se voit même en une image. On va vous montrer un GPU, un scan d'un GPU et un scan d'un LPU. La LPU, ouais, c'est vraiment la bibliothèque super bien rangée, quoi. C'est vraiment, il y a les livres à toutes les étagères. Un GPU, c'est beaucoup plus complexe comme architecture.
C'est un bordel.
C'est un bordel. Et voilà, ils ont fait des trucs beaucoup plus simples. Et en fait, ils se sont attardés sur une chose très importante pour inférer des IA, donc pour répondre à des IA. C'est qu'ils ont été conçus pour un volume élevé de calculs à faible précision. Donc vraiment, c'est pas des calculs compliqués, mais c'est beaucoup, beaucoup de calculs avec beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Donc globalement, tout ce que ne fait pas ou fait moins bien un CPU, donc un processeur ou un GPU, une carte graphique. Et donc, ils ont tout mis sur la bande passante. La bande passante est très, très importante. Pour une puce, si on regarde les specs, elle est à 80 terabits seconde. C'est absolument immense. Et en fait, ils se sont dit, OK, on va pas mettre beaucoup de mémoire. On va faire la stratégie inverse. Au lieu de pousser la mémoire à fond, on met pas de mémoire. Par contre, on est tellement rapide qu'en fait, on n'a pas besoin de la mémoire, on fait tout en bande passante. Si je...
En fait,
là, j'ai simplifié.
C'est comme un joueur de foot, en gros, t'as des trade-offs, en gros.
Exactement.
Et donc là, ils ont maximisé la bande passante, mais du coup, ça leur...
Minimiser la mémoire.
J'imagine que, surtout, la conséquence, malheureusement, c'est qu'ils peuvent pas avoir autant de mémoire. Et donc, comment ils font ?
Complètement.
J'imagine qu'ils en mettent plein.
Et du coup, ils en mettent... Alors, je vais pas rentrer dans le timing, ils en mettent plein en cluster.
Parce que là, effectivement, pour atteindre les 50 ou 100 gigas nécessaires à faire tourner des gros modèles, tu dois en avoir combien ? Attends, on peut faire le calcul, en vrai.
Je sais pas.
T'en as 5 par giga, 4 par giga, en gros. Donc...
J'ai plus le calcul, là.
Bah, ça fait typiquement 100 gigas. T'as besoin de 400
ouais.
LPU pour faire tourner les plus gros modèles qui existent.
Sauf qu'en fait, le LPU est une puce qui coûte beaucoup moins cher et aussi qui se met beaucoup mieux en cluster. En fait, les très grosses entreprises, ils ont du mal à faire des immenses clusters de GPU. Ils y arrivent parce qu'il faut bien. Mais parce qu'en fait, il faut des CPU qui gèrent les GPU
ouais.
Et ça se met... C'est compliqué à mettre en cluster.
Ça chauffe.
Ça chauffe. Et même d'un point de vue architecture et logiciel pour gérer tout ça, en fait, paralléliser, c'est toujours un peu compliqué. Là, les LPU, vu que c'est des petites puces en réalité, eh ben, en fait, ça se met bien plus facilement en cluster, donc c'est-à-dire en groupe. On arrive beaucoup plus facilement à les regrouper. En gros, c'est comme ça qu'ils ont réussi.
Ok. T'as, c'est
si,
bien,
si je...
Mais du coup, ouais, j'imagine qu'ils doivent avoir effectivement des rangées avec 400 GPU. Mais où du coup, le nombre d'utilisateurs...
LPU, du coup.
Ouais, de LPU. Et où du coup... en fait, c'est beaucoup plus distribué, quoi. C'est
beaucoup plus distribué. Ouais, tu l'as très bien dit. Alors, j'espère qu'on n'utilise pas des mots qui
ouais,
font pas dans cette industrie. on vulgarise très, très grossièrement. Et en fait, est-ce que c'est nouveau? Parce qu'ils ont fait un petit buzz, quand même, sur Twitter. Ça a vachement bien marché. Est-ce que cette architecture, elle est nouvelle? En fait, non. Ça existait déjà. Et pour cause, le fondateur de Grok et des Grok Chip, c'est un ancien de Google qui a travaillé sur le premier TPU. TPU, c'est pour Tensor Processing Unit. Ça a été lancé en 2015. Et en fait, c'est des puces qui sont conçues pour les tenseurs, on dirait en français. Donc, c'est un objet mathématique. Et pour le calcul matriciel. Pour faire très simple, c'est ce qu'ont besoin les IA. C'est de faire des calculs matriciels et de faire des tenseurs parce que c'est des objets en 3D, en gros, pour faire simple. Et Google, ils se sont dit, OK, on a besoin de faire ça. Du coup, on va inventer notre propre puce qui s'appelle le TPU. Et en fait, c'est un ancien de Google qui a participé à l'élaboration de ce chip, qui a fait son propre chip parce qu'il s'est dit, en fait, il y a complètement un marché. Et en fait, le LPU surmonte deux goulots d'étranglement des LLM, des chatbots, etc. C'est, comme j'ai dit, la quantité de calcul et la bande passante mémoire. Ils misent tout sur ces deux choses-là au détriment du reste. Et pour finalité, ça réduit le temps nécessaire pour générer un seul token. Et donc, ça génère des textes bien, bien, bien plus rapidement.
Oui, j'ai une question du coup. Parce que je me rappelle très bien quand ils ont sorti les TPU à Google.
Ouais.
Et du coup, tous les calculs matriciels, c'était super bien pour les images. Mais du coup... Les LPU, c'est pas basé sur les TPU.
Bah, c'est-à-dire qu'ils ont dû décliner le principe, ouais. Mais pour les Pour les transformer.
En fait, il y a une deuxième couche d'intelligence qui est, qui est vachement importante, c'est qu'ils ont un... C'est le compilateur. En gros, c'est l'interface entre LLPU et LLM. Là, dans leur compilateur, ils ont tout optimisé pour que ça s'adapte à des LLM de langage. Et en gros, au début, il comprend avec quel LLM il va parler, comment le LLM il parle, et il adapte un peu sa compilation pour faire en sorte que ça soit plus rapide. En gros, ils ont un compilateur super rapide qui s'adapte au LLM, alors que un GPU, ben, tout est basé sur CUDA, etc. Enfin, je vais peut-être pas rentrer dans ce sujet-là parce que je vais pas le maîtriser.
Bah, du coup, si j'ai bien compris, c'est que ils ont conçu la puce pour qu'elle soit hyper efficace. Et donc, en général, pour rendre plus efficace du hardware, c'est qu'on contraint ce qu'il peut faire. C'est toujours comme ça. Un CPU, ça peut tout faire, et donc c'est moyennement efficace en général. Et donc, par exemple, un GPU, ça peut faire beaucoup moins de choses, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se voient dans le silicium, en gros. Tu peux voir certains algos, quoi, plus ou moins. Et donc, ça permet d'avoir des performances supérieures. Là, ils vont encore plus loin, en fait, dans cette direction-là. Mais pas au point que tu peux seulement utiliser leur puce avec un LLM. Tu peux pas juste l'utiliser avec l'IAMA. Ils ont trouvé
une
sorte d'entre-deux où c'est à la fois relativement générique pour à peu près tout ce qui est le langage, et où du coup à l'avenir ça sera probablement compatible quand ils mettront à jour leur compilateur spécifique avec d'autres trucs.
Et en fait, c'est une des déclinaisons des TPU, parce que vous le savez sans doute, mais Google a très très tôt open sourcé ses librairies d'apprentissage. Ouais. C'est ce qu'on appelle TensorFlow. Et en fait, tout ça est complètement open source. Et donc, les puces qui sont faites et qui se basent sur cette librairie, sur les TPU, chacun peut faire sa propre puce. Et Grok n'est pas du tout les seuls. Facebook, on sait que Facebook travaille sur la sienne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais MTIA. C'est à la fin, si jamais utile. Amazon aussi travaille dessus sur des projets qui s'appellent Trainium et Inferentia. Et il y a tout plein de start-up qui, comme Grok, se sont dit il y a un marché. Et en fait, il y en a plusieurs. Donc là, c'est Grok qui est mis en avant. Et il y en a plein parce que vu que tout le monde a accès aux mêmes ressources, et ben tout le monde s'est dit on va faire des puces dédiées à l'inférence qui sont dérivées de ce TPU. Donc le LPU est en fait une déclinaison, une. Comment on dit en programmation quand on veut.
Un fork ?
Pas un fork. Bref, j'ai plus les mots, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est décrit parce qu'on n'est pas.
Le mot, une instance.
Ah oui.
c'est une instance d'une architecture de puce dédiée à une application. Et donc là, on parle aujourd'hui du LPU. Il y en aura sans doute bien d'autres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. Justement, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, on a eu des premiers cas d'usage en vidéo. Et c'est ça qui est cool. Le premier, on va pouvoir montrer le tweet, c'est le transcript d'une vidéo avant même que la vidéo soit finie.
Wow.
Ouais, je te promets. Et donc, c'est des gens qui ont mis au point ce petit truc. Ils ont utilisé différents outils. Et grâce à ça, tu peux lancer la vidéo.
Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Et donc, là, pendant la vidéo, il a son petit truc qui tourne. Et il va y avoir le transcript qui apparaît. Premier cas d'usage que je trouve incroyable.
C'est plus rapide que du temps réel, en gros. C'est...
Exactement.
Effectivement, c'est dingue, ouais.
C'est vraiment... En fait, voir une vidéo qui est traduite avant même d'avoir la fin de la vidéo, c'est un peu brainfuck. Ouais, c'est un peu fou. Et après, il lui demande de résumer la vidéo, etc.
Donc, il est toujours effectivement à 533 tokens par seconde. C'est délirant, ouais.
C'est délirant. Deuxième application, et vous y avez peut-être déjà pensé, Est-ce que vous avez des idées d'applications qu'on pourrait faire avec une IA qui va très très vite, un chatbot qui va très très vite?
Après, on en a parlé au début, c'est les applications avec beaucoup de chaînes de pensée.
Ouais.
Moi, je pense à un autre truc.
Vas-y.
c'est les assistants.
Les assistants vocaux?
Bah ouais, parce que je sais bien qu'il y a quelques mois encore, il y avait un peu les premières briques disponibles qu'on pouvait mettre ensemble, les speech-to-text, text-to-speech, machin. Donc, là, rapidement, n'importe qui, maintenant, peut essayer de créer un semblant de Siri intelligent. Et le gros problème actuel, c'est la latence. Enfin, il y en a plusieurs, mais un des gros problèmes, c'est la latence. Parce qu'en fait, on s'en rend pas du tout compte, mais ce qui fait qu'on utilise ou pas un assistant, c'est des petites choses, en fait. C'est des petites frictions qui sont énervantes. Par exemple, le fait qu'il te parle, tu sais que tu lui dis quelque chose, et il commence à parler, et là, tu reparles. Mais lui, il est bloqué parce qu'il...
Il continue.
Exactement. En fait, c'est des petites choses comme ça qui font qu'actuellement, on n'est pas tous en train d'utiliser des assistants. Et si jamais, effectivement, ce hardware permet de générer des tokens à l'infini en très peu de temps, eh ben, on résout un petit maillon de la chaîne qui ralentissait beaucoup, beaucoup le temps d'un... Enfin, le temps de la discussion, quoi, les latences entre les questions et les réponses. Et donc moi, j'ai vraiment hâte de voir le Siri basé sur Grok qui te répond en une quart de seconde. Il paraît que ça peut même être bizarre si on te répond... Enfin, il y en a qui ont fait...
Trop vite.
Qui ont commencé à faire des tests. Et en gros, si on peut te répondre tellement vite par rapport à ce que ferait un humain. C'est ouais. Genre, nous, entre nous...
T'as besoin de réfléchir des
exactement,
fois.
Exactement. On met quand même 2 secondes et demie, tu vois. Et si la réponse est trop instantanée, ça peut même être quasiment... étrange, quoi.
Du coup, le truc de conversation, tu m'as pensé, mais on pourrait avoir des potes IA dans les jeux vidéo, non?
Oui.
Oui.
Aujourd'hui, c'est...
Ah oui, bah tu fais référence à ce que t'avais fait sur Minecraft aussi, non?
Mais oui, mais pas que...
Oui, mais oui, du coup, bien plus rapide.
Genre, imagine, tu joues un RPG et puis t'as des vraies conversations fluides, en fait. Ce serait...
Bah, ok. C'est clair.
Oh, non, mais intéressant.
Moi, je pense que c'est un super point, notamment parce que typiquement, dans un jeu, tu t'attends à ce qu'il y ait plusieurs PNJ, plusieurs personnages virtuels, par exemple.
Ouais,
etc.
qui font leur vie, qu'on leur.
Or, la solution, ce sera. Enfin, ça peut pas être de paralléliser et d'avoir 100 appels différents en même temps à des API type OpenAI. Enfin, une manière de résoudre le problème, c'est effectivement d'avoir beaucoup, beaucoup plus de débit pour que tout ton monde virtuel puisse évoluer. C'est ce qu'on a vu notamment dans les démonstrations qui ont été faites sur... Vous savez, où on génère des épisodes de South Park, par exemple.
Oui.
Et c'était une des démonstrations super, super fun de ce qui est le mieux qui existe actuellement en termes de scénarisation et de contenu un peu temps réel qu'on pourrait voir un jour dans un jeu vidéo, par exemple. Et ben mine de rien, ça se passait pas du tout en temps réel. C'est-à-dire qu'il y avait des jours de compute, de génération... avant, pour simuler le monde, en gros, et faire en sorte que, ah oui, tel personnage, ok, à telle heure, il fait ça, à telle heure, il fait ça. Et en fait, tous les mécanismes pour imaginer ce qui se passerait dans un monde virtuel, pour virtualiser un petit monde qui pourrait plus tard être un jeu vidéo, un RPG, et ben actuellement, ça n'existe pas en temps réel. Et donc, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est probablement une des solutions de faire ça.
Ok. Non, mais trop intéressant. C'est des usages que j'avais pas pensé. Dans le chat, j'ai vu du trading. J'y avais pas pensé non plus, tu vois. Le petit. Ok. Et du coup, Mickaël, peut-être que ce monsieur va réussir à te faire rêver avec son application qu'il a postée sur Twitter. Et là, il va falloir mettre le son parce que c'est très important. En vrai, moi, ça m'a fait quelque chose.
This is the Lodge Hotel. How can I help you?
Hello, I'm calling to book a room.
Attends un petit peu.
Sure, what dates are you looking to stay with
us? C'est incroyable.
I'm looking to stay Thursday and Friday.
Great. We have availability
vraiment...
for those dates.
C'est au téléphone.
The room rate is $384 per night. Would you like to book a room for Thursday and Friday?
Yeah, let's go ahead and do it.
Great. I just need to confirm a few details. How many guests will be staying in the room?
C'est pas mal, hein?
It'll just be me.
Great. Thank you for letting me know.
Je suis choqué.
Nice.
C'est dingue.
Moi, la seule fois qu'on avait vu ça, c'était Google qui avait déjà fait des trucs comme ça, mais c'était en keynote.
C'était une vidéo.
Super optimisée. Une vidéo. Ils avaient pu la travailler pendant 15 ans.
Mais c'était il y a plusieurs années.
Ouais. C'était il y a plusieurs années, mais par contre, c'était sur des cas d'usage super précis. Genre, c'était pour réserver un resto.
Dingue.
Et en plus, c'était en mode keynote. On l'a jamais fait dans la vraie vie, tu vois. Et je trouve ça incroyable.
C'est incroyable. Et vous avez vu là, la latence, c'est 1 seconde 7.
Elle est humaine. Elle est bien.
C'est ça, c'est bien. Mais faut réaliser que ça. Actuellement, c'est une prouesse. Rien n'arrive à la cheville de ces latences. Et pourtant, honnêtement, tu rajoutes 1 seconde, ça devient énervant, tu vois.
Ouais.
Ouais.
On est d'accord. Ah, de fou.
Là, c'est juste. Là, c'est bon.
Ils auraient dû faire la même vidéo, tu sais, mais avec une IA qui marche pas sur des LPU.
Juste pour
la frustration de la conversation, tu sais.
Je pense que là, elle est même un peu plus vive que certains.
Que certains humains.
Les humains, le matin, vers 7h, tu vois, ils sont pas aussi vifs. Alors, c'est fou.
C'est dur pour les humains. Et le pire, c'est que ça pourrait être encore mieux, rien qu'avec ce LPU, parce qu'elle est gravée en 14 nanomètres. Si vous suivez un peu les puces, c'est beaucoup, 14 nanomètres. Aujourd'hui, on arrive à faire du 3 nanomètres, il me semble. Et c'est normal, c'est une start-up, ils ne vont pas demander à des fonderies de faire des puces de l'espace. Mais pour vous dire que, en fait, si ils arrivent à une finesse de gravure bien plus petite, tu peux optimiser encore plus les performances pour une seule puce. Mmh. Et 14 nanomètres, aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup. Donc pour vous dire que ça pourrait encore plus loin, encore plus vite.
Ça veut dire que là, déjà, les calculs sont bons, entre guillemets. C'est-à-dire que ça coûte déjà moins cher avec des débits super élevés, alors que c'est que le début, entre guillemets, de ce secteur. Quoi.
Si j'étais un entrepreneur, je leur dirais que leur go-to-market est parfait. Allez-y, c'est le moment. Non, mais leur timing est bon. Je peux terminer sur une question que Twitter, où les gens sur Twitter l'ont beaucoup posée, c'est est-ce que c'est la fin de Nvidia ? Il y a plein de gens qui se sont dit, c'est bon, Nvidia va s'effondrer, etc. Toi, tu dis non. Pourquoi ?
Déjà, c'est spécialisé langage.
Complètement.
Et Nvidia, ils font de la vidéo. Donc, en fait, on n'est pas sur le même cas d'application, tout simplement.
Bah oui, et rien que pour l'apprentissage, en fait, de tous les LLM, Nvidia, pour l'instant, est vraiment le
leader. Ah oui, parce
leader.
Que ça peut que faire l'inférence.
Tu ne peux pas faire apprendre sur
l'entraînement. Donc
déjà, tout ce secteur, c'est mort. Après, il y en a qui ils disent que dans les années à venir, l'inférence va prendre vraiment une grosse, grosse place. Mais en fait, rien ne vous dit que Nvidia ne fait pas sa propre puce pour exactement ses usages. Et en fait, c'est juste une certitude. Donc Nvidia n'est pas du tout mort, mais ce qu'il faut voir derrière Grog, et c'est peut-être Grog qui va rester, c'est peut-être une autre boîte, c'est ce qui va être possible de faire à l'occasion grâce à ces nouvelles puces très spécialisées pour un usage d'IA. Moi, je ne serais pas étonné de voir, par exemple, des puces dédiées à la génération d'images, par exemple, et pas à la génération de langage ou des choses comme ça. Ça va être franchement une période très intéressante à suivre.
Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, comme tu disais, que Nvidia travaille sur une carte optimisée pour la génération pour l'inférence de vidéos.
Ouais.
Et pour répondre définitivement à la question, quelqu'un dans le chat dit très justement, regardez juste l'action Nvidia.
Oui.
L'action, ouais.
Il y en a qui vont pas être convaincus en regardant juste une action à un instant T.
Mais c'est un signal. En général, si jamais tu as des grosses annonces qui, dans la perception, pourraient avoir un impact négatif sur une boîte, ça peut se ressentir. Là, vraiment, c'est l'inverse.
Oui.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.